Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'aumônerie, d'aumônerie militaire au culte musulman. Et j'ai un grand plaisir d'accueillir l'aumônier militaire en chef du culte musulman, notre appellation l'aumônier général du culte musulman aux armées. C'est Abdelkader Harbi. Bonjour.
Bonjour Alain.
Merci vraiment de nous faire l'amitié de venir nous présenter l'aumônerie militaire au culte musulman, son histoire. Donc il y a tout un historique à présenter. J'ai cru comprendre que c'est l'aumônerie la plus récente, la plus jeune, en dépit de la présence très tôt sur les champs de bataille de soldats, de combattants musulmans. Donc vous aurez l'amabilité de nous expliquer tout ça, ce que vous faites, enfin tout un programme. Eh bien, nous aurons à passer en revue tout cela ensemble durant l'émission. Alors, quelle est la genèse, l'histoire, la proto-histoire même de l'aumônerie militaire au culte musulman ?
L'aumônerie militaire du culte musulman existe depuis maintenant, effectivement, depuis 2005.
Ah, c'est très récent.
Mars 2005, on est dans le deuxième mandat du Conseil français du culte musulman. Et si je me permets de citer d'emblée le Conseil français du culte musulman, c'est pour, quoi qu'on en dise, le Conseil français du culte musulman, c'est peut-être là une des avancées significatives au bilan, peut-être un peu maigre, du Conseil français du culte musulman. Puisque c'est par la création du Conseil français du culte musulman, et plus particulièrement son existence, qui aura permis de pouvoir appliquer les textes. Les textes prévoient que les différents cultes proposent aux ministres concernés, quel que soit, je dirais, le ministre selon l'étendue de la loi de 1905, proposent, et ce sont les ministres, en l'occurrence, en ce qui me concerne, le ministre de la Défense, qui nomment. Ce qui fait qu'en 2005, on est, comme je le disais, au deuxième mandat du Conseil français du culte musulman, et l'État décide d'institutionnaliser pour la première fois de l'histoire l'islam dans le droit positif. C'est une avancée considérable, remarquable et ô combien attendue. Puisque, comme je le disais, il est vrai que les textes prévoient toujours, et c'est ce qui a prévalu de tout temps, que ce soit pour l'armée ou pour autre, je dirais, institution, l'absence d'instance représentative du culte musulman, qui aurait été en mesure de proposer, justement, aux ministres concernés, la nomination d'un aumônier militaire en chef du culte musulman. Puisque les textes eux-mêmes ne prévoient pas la création d'une aumônerie militaire, quel que soit le culte, mais la présence d'un aumônier militaire en chef du culte musulman, placé auprès du chef d'état-major des armées. Je le disais, c'est une avancée considérable. Vous l'avez dit vous-même dans le préambule de la présentation de cette émission, qu'il y a toujours eu, de tout temps, on remonte même aux premières guerres importantes, je pense notamment à la guerre franco-allemande, la première, 1870, où il y avait déjà des soldats de confession musulmane, à travers d'autres armées également, d'autres événements de l'histoire de France, à travers l'armée coloniale, l'armée d'Afrique, où de nombreux soldats de confession musulmane sont venus ici, sur le territoire, ou sur d'autres théâtres d'opérations extérieures, déjà à l'époque, ont fait preuve de ce courage, de cette bravoure, de ce sacrifice pour la France.
Oui, c'était du temps où on parlait de la France sous l'Empire comme étant une puissance musulmane, entre autres. Alors j'ai cru comprendre qu'on n'a pas lié la carence ou l'absence d'aumônier militaire en général, en tout cas, et cette aumônerie. J'ai cru comprendre aussi que c'est le général Catroux dans les pays du Levant qui a pris sur lui, avec une compréhension assez élastique ou lâche des textes, de désigner des guides spirituels pour les combattants.
Alors, dans l'histoire des armées, on a deux grands moments où pas tout à fait les aumôniers, mais on avait recruté une quinzaine d'imams pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, coïncidence de l'histoire ou pur hasard, ce premier imam s'appelait également Abdelkader.
Oui, c'est vrai. Vous portez tous les deux le même prénom. Et il était même affublé du titre Cheikh Abdelkader.
Cheikh Abdelkader.
Ce que vous finirez par avoir, cher Abdelkader Arbi.
Et cet imam, avec d'autres, une quinzaine, était, je vais utiliser le mot, caserné, cantonné. C'est-à-dire qu'ils ne vaquaient pas leur occupation, je dirais, spirituelle et autre. Ils étaient exclusivement chargés du rite funéraire. C'est-à-dire qu'on considérait que le culte musulman était un culte, quelque part, et la remarque est pertinente, un culte assez dépouillé. Et il m'arrive parfois, pour retracer un petit peu, gérer l'histoire, me pencher sur des textes. Je suis situé, moi, au Fort-Neuf de Vincennes. Au Fort-Neuf de Vincennes, en vis-à-vis, il y a le service historique des armées, où on a toutes les archives, des trésors, je dirais. Et il m'arrive souvent de consulter quelques archives, et je voyais la réticence qu'il y avait à créer cette aumônerie militaire, en tant que telle. Néanmoins, on a pris en considération que ces soldats qui s'étaient dévoués pour la France méritaient quand même, je dirais, une fin honorable à travers, je dirais, leur inhumation selon les rites qu'ils avaient eux-mêmes déclarés. Et ces aumôniers ont été démobilisés à l'issue de cette Première Guerre mondiale. On a retrouvé encore d'autres imams qui avaient été également appelés, je dirais, dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale, où là aussi on a fait rappel encore à d'autres imams uniquement pour, j'allais dire, célébrer le rite funéraire. Enterrer, je dirais, les soldats français de confession musulmane selon leur rite. C'est un bon égard, j'allais dire, à leur endroit, mais néanmoins très très concis, très très difficile à accepter. C'était une idée de la religion musulmane, et je ne ferai pas d'analyse plus détaillée pour dire que on n'a pas pris en considération, je dirais, le vivant. Où on n'a pas senti que le soldat de confession musulmane pouvait lui aussi avoir des questions existentielles, des états d'âme, des questions qui pouvaient, je dirais, le traverser. Non, on a pensé qu'il n'était pas, je dirais, assez sensible peut-être. Néanmoins, c'est pour cela que il n'exerçait pas, pour parler de ces imams qui s'occupaient du rite funéraire, n'exerçait pas leur charge pastorale, telle qu'on l'entend aujourd'hui, telle que peuvent le pratiquer c'est leur homologue du culte catholique, protestant ou israélite. Et il aura fallu attendre, 2005, la publication de ce décret, l'inscription dans le droit positif, dans les textes, dans le dur, dans le marbre, la présence d'une aumônerie militaire du culte musulman. C'est là, j'allais dire, une avancée, comme je le disais précédemment, une avancée sociale remarquable.
Et remarquée, et elle est considérable. Là, donc, il y a cette prise en charge spirituelle et ce lien direct avec le vivant qui se fait alors sur le terrain, dans les OPEX, comme on dit, dans les opérations extérieures, mais aussi en temps de paix. Donc, il y a tout un travail de compagnonnage, si je puis dire. Vous avez combien d'aumôniers ?
Alors, nous sommes aujourd'hui 43 aumôniers. Et dans le détail, ça donne 38 aumôniers à temps plein et 5 réservistes. Ils sont tous, j'allais dire, militaires, sous contrat, officiers. Le grade démarre dans l'échelle, je dirais, de classification au grade de lieutenant jusqu'au grade de colonel. Parmi ces 43 aumôniers, je compte 7 aumôniers féminins. Alors, on ne dit pas aumônière, on dit aumônier.
Oui, c'est un aumônier. L'aumônière, c'est la poche dans laquelle on met des sous.
Voilà, celle-ci. Il y a un lien quand même, hein, sémantiquement, il y a un lien. Étymologiquement, il y a un lien entre les deux. Nous sommes 38. Et pour définir un peu les fonctions de l'aumônier reposent sur deux principes. Le premier, ils sont chargés du soutien spirituel, moral et culturel des militaires, et plus largement encore du personnel civil et militaire de la Défense nationale, de leur famille. Et l'autre volet également, non négligeable également, qui est le conseil au commandement. C'est-à-dire qu'on peut être sollicité aujourd'hui dans le commandement lorsque le commandement a besoin de prendre certaines décisions ou des questions de faits religieux pourraient, j'irais, venir s'imbriquer dans l'armée. L'institution a prévu qu'il y ait des aumôniers militaires, catholiques, protestants, juifs et musulmans, pour pouvoir les aider parfois dans la résolution de certaines questions qui se posent.
Alors, j'ai cru comprendre aussi, Abdelkader Arbi, qu'il y a où il y a eu, en tout cas, une journée nationale des aumôniers, ce qui permet aux aumôniers militaires de se retrouver. Il y a aussi une partie de dialogue interreligieux et de rencontres spirituelles, par-delà les appartenances confessionnelles de nos militaires.
Alors, l'aumônerie militaire française, dans son ensemble, avec ses quatre cultes, est vraiment à l'image de ce qu'on pourrait appeler une laïcité, où cette notion d'égalité, non pas d'équité, parce qu'il y a toujours cette ambiguïté entre les deux termes, cette notion d'égalité est pleinement constatée. Nous avons effectivement, je dirais, de bonnes et de très bonnes relations avec nos homologues des autres cultes, puisque nous sommes chargés de la même mission. Nous n'utilisons pas forcément les mêmes outils, mais nous sommes chargés de la même mission. C'est-à-dire de soutenir le militaire, je dirais, qu'il soit demandeur, je dirais, d'une assistante spirituelle, morale ou cultuelle, ou le commandement lui-même, qui le commandement est également, je dirais, un soldat également. Ce qui fait que nous sommes au soutien de ces hommes, et nous utilisons, je dirais, toutes les possibilités qui nous sont offertes à travers de nombreux chantiers où nous nous impliquons tous de la même manière. Et je dis souvent, je suis pas l'aumônier musulman, militaire musulman. Pour moi, il n'y a que des militaires. Après, ils ont cette particularité d'être... C'est vrai qu'on parle à tout le monde.
Dans un premier temps, on a le militaire, il n'est pas discriminé selon son appartenance confessionnelle, et après, c'est selon la demande.
Tout à fait. Lorsque quelqu'un frappe à ma porte, je ne fais pas prévaloir, je dirais, son appartenance confessionnelle. C'est au cours de la discussion, ou s'il a besoin, un besoin spécifique qui relève, j'allais dire à ce moment-là, du culte musulman, de la pratique cultuelle, bien évidemment, c'est à moi d'essayer de le renseigner, mais je peux recevoir des gens qui sont agnostiques, voire athées, voire, je dirais, d'autres religions, et entamer des discussions. Ce qui fait que on a cette un exemple pour illustrer, je dirais, ce que je viens de dire. Partout, on retrouvera les quatre aumôneries présentes, que ce soit sur les théâtres d'opérations extérieures ou dans les différentes unités sur le territoire national. Mais il y a un endroit où l'exiguïté des bâtiments de la marine, où il n'est pas possible d'avoir les quatre aumôniers en même temps, ce qui fait qu'il y a un aumônier à bord, et on peut retrouver un aumônier musulman, un aumônier catholique ou protestant, qui s'occupe de la charge pastorale, de la charge, je dirais, de la dimension, je dirais, de la relation entre le soldat et ses questions existentielles, pour tous les marins.
C'est-à-dire qu'on y compris dans les sous-marins.
Pareil.
Également. Les SNLE, voilà, les sous-marins nucléaires, voilà. Lanceurs d'engins.
Voilà. Alors, alors sur ces bâtiments un peu sensibles, il n'y a pas d'aumônier musulman attitré ça peut arriver qu'il soit, j'irais, recherché pour une mission bien précise, etc. À un certain moment. C'est une particularité. Ces bâtiments de la marine sont des particularités, mais sur les bâtiments flottants. La marine, il n'est pas possible d'avoir quatre aumôniers, à une exception près, où il peut y avoir sur le Charles de Gaulle deux aumôniers, puisque l'espace.
Le bâtiment le permet. Abdelkader Harbi, tout en progressant avec vous tout au long de l'émission, quelles sont les demandes, cette fois-ci spécifiques, aux soldats musulmans? C'est plus de connaissance du patrimoine islamique. Il y a quelques angoisses existentielles que vous apaisez. Il y a peut-être une volonté de comprendre davantage. Y a-t-il des observants, ou même de strictes observances, une volonté d'aller à la norme religieuse? Comment ça se passe?
Alors, on peut dire ce qu'on fait, mais il y a une autre manière également de définir les choses, ce qu'on ne fait pas.
Ah, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle... Pardonnez-moi le terme, la théologie apophatique. On ne sait pas ce qu'est Dieu, on dit ce qu'il n'est pas. Alors là, vous allez nous dire ce que vous ne faites pas.
Alors nous ne sommes pas le syndicat des soldats de confession musulmane.
Très bien.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas un bureau où on viendrait revendiquer ou autre, etc. Néanmoins, des questions essentielles, et on a pu les régler d'emblée. Je pense que c'est les deux premiers sujets auxquels je me suis attelé, celui de la nourriture. Vous savez qu'un sac vide ne tient pas debout. et penser à la nourriture de nos soldats et leur amener leur confort, je dirais, que ce soit d'un aspect gustatif ou, je dirais, propre, je dirais, à leurs interdits alimentaires, s'il y en a. Il fallait résoudre cette question rapidement. Ce qui fait qu'on s'est attelé à cette question dès le début, je crois, la première année, dans les 6 premiers mois, l'institution militaire, dans un travail conjoint avec mon ami et de l'époque et frère, le rabbin Hakoun, de l'aumônerie israélite, l'aumônier en chef, nous avons saisi le chef d'état-major des armées et toutes les directions, je dirais, qui étaient en charge de cette demande bien précise. Et nous avons remis à l'ordre du jour ce qu'on appelle les repas confessionnels. Ce qui fait que cette demande a été très vite, je dirais, on a répondu très rapidement, les choses avancent et sont normalisées aujourd'hui. Un soldat de confession musulmane qui souhaiterait manger, notamment lorsqu'il est en opération extérieure, à travers ce qu'on appelle les rations de combat, on trouve aujourd'hui des repas sans porc.
Ce qui existait, c'est la chose la plus importante, c'est la viande de porcine qui est prohibée, parce que parfois, dans l'excès de zèle, on voudrait en rajouter.
Mais il y a également des repas, je dirais, qui respectent le riz dans sa dimension la plus littérale du terme, avec toute une procédure, je dirais, d'abattage, de contrôle, etc., mais de manière très très apaisée, et très, je dirais, sans aucune autre demande également qui fait jour et qui existe aujourd'hui, c'est la demande de lieux de culte. Là aussi, dès le début, dès la première année de l'exercice de ma mission, nous avons également mis en place, je dirais, des principes et des critères qui permettent, je dirais, de mettre en place dans des unités des lieux de culte qui permettent aux soldats de confession musulmane de pouvoir vaquer lorsque la mission est terminée, lorsque le temps le permet, de pouvoir vaquer, je dirais, à cette occupation cultuelle. La religion musulmane est une religion, certes, c'est vrai, dépouillée, mais il n'y a pas besoin, j'allais dire, de tout un cérémonial. 2-3 minutes suffisent. Le temps, peut-être, d'aller boire un café ou de fumer une cigarette. Et le militaire peut, dans son unité ou en opération extérieure.
C'est ce que Abdelkader Hadi, je vous ai interrompu, appelle la souplesse et la simplicité de la pratique culturelle islamique.
Ce qui fait que, voilà les deux points, les deux choses qui parfois peuvent poser question, peuvent poser même problème parfois. On les a résolus dès le début parce qu'on a eu en face de nous des gens qui étaient, je dirais, volontaires. Et souhaiter tout à fait aboutir rapidement à cela, nous avons mis en place ces deux aspects-là de manière normale et on les a banalisés aujourd'hui, une chose, je dirais, courante. Et elle permet, je dirais, d'assainir les relations au sein de l'unité. Il n'est pas pensable qu'aujourd'hui encore, dans certains endroits où on vit, je dirais, ensemble, pendant plus de 8 heures par jour, on passe plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec nos familles. Hein. Si on retire le temps de sommeil et le temps de il reste plus grand-chose.
Ça devient une communauté de destin.
Destin, etc. Et a fortiori engagé pour une cause, je dirais, ô combien périlleuse et d'une dimension, je dirais, très forte, qui est la défense nationale, permettre à chacun de pouvoir rapidement s'extraire à un moment donné. Lorsque la mission est terminée, je le rappelle, c'est vraiment lorsque le boulot est fini, qu'on peut, et c'est grâce, j'allais dire, à cette lecture, toute cette jurisprudence musulmane, qui permet non pas d'alléger ou d'amenuiser, mais bien au contraire, de pouvoir l'accaparer dans sa plénitude totale. Pour rappel, lorsque une obligation cultuelle, et on les connaît tous, s'impose à un fidèle, à un pratiquant, je dis bien qu'elle s'impose à un fidèle, il se l'impose lui-même, un fidèle, un pratiquant, il y a toute cette notion de jurisprudence qui permet d'avoir ces diminutions de temps de prière, ces aménagements, etc. Et le militaire a tout intérêt à l'utiliser, puisque à la fois il remplit une obligation et il utilise une jurisprudence qui relève de la tradition, ce qui fait qu'il est doublement récompensé, il est nullement, j'allais dire, diminué, j'irais, dans ses actes de dévotion. Et c'est tout à fait, j'irais, important pour le militaire d'être débarrassé de ces deux questions-là qui sont principales. Le reste du temps, nous les aidons, et surtout ce que nous ne faisons pas également, nous n'essayons pas de les rendre plus bigots que s'ils n'étaient rentrés. Pour nous, notre rôle essentiel, c'est comme ça que je le résume, c'est plutôt de leur dire, écoute, tu as fait le choix de t'engager dans l'institution, dans l'armée, c'est une bonne chose. Nous, on va t'aider à réaliser ton projet de travail. On ne va pas t'aider à t'améliorer dans une compréhension ou autre, je dirais, d'une pratique, etc. Mais on va t'aider à exercer ton métier comme il le faut, à te débarrasser de ces questions-là qui peuvent t'empoisonner la vie ou te créer des situations conflictuelles avec tes supérieurs ou avec tes subordonnés. Et on va t'aider. Voilà notre rôle principal, d'aider le militaire qui a fait le choix de s'engager pour la France à réaliser pleinement, en s'épanouissant dans son travail, et débarrasser de ses questions.
Les maîtres mots sont aide, assistance, soutien. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'aumônerie militaire au culte musulman en présence et avec l'aumônier militaire en chef du culte musulman, Abdelkader Harbi. Vous êtes l'aumônier général du culte musulman et c'est vraiment un réel plaisir de vous entendre apaiser, pour ceux qui le souhaitent, les angoisses et la prise en charge spirituelle des soldats, et notamment sur le terrain. Alors, une question cruciale, quand il y a, parce que le militaire est dans une logique de tuer et d'être tué, et qu'est-ce que vous faites quand la tragédie arrive et il y a des dépouilles mortelles? Il y a une toilette mortuaire, il y a...
Alors, il y a... Tout le rite funéraire est bien évidemment usité pour pouvoir, parfaire au traitement de la dépouille. Il y a le soutien de ses collègues. Lorsque on a dans une unité une perte humaine, il convient bien évidemment de prendre en charge le défunt. Mais je veux dire, pour lui, c'est fini. Il convient de prendre en charge sa famille, au plus proche, je dirais, du moment, ses amis, le commandement, rassuré. Et on peut être au-delà du rite funéraire lui-même qui est propre à chaque, je dirais, obédience. On peut être là, je dirais, dans une interreligiosité. Et s'il n'y a pas d'aumônier musulman, ou si le sujet, le défunt est musulman et qu'il n'y a pas d'aumônier musulman, on procédera à la toilette rituelle funéraire selon les codes et les usages. Mais c'est peut-être l'aumônier catholique qui prononcera, j'irai quelques mots pour essayer de dédramatiser, pour essayer d'aider à la compréhension, j'irai, de cet acte final qui est, j'irai, comme vous l'avez dit, à juste titre, de tuer ou d'être tué. C'est la particularité du militaire.
Et on y va jusqu'au sacrifice suprême, ouais. C'est alors, le don de sa vie. Pour les vivants et ceux qui souhaitent, si on est toujours dans la logique d'une pratique cultuelle de stricte observance, ceux qui veulent accomplir le pèlerinage à la demeure de Dieu, ils le font sur leur temps de congé ou il y a une permission spéciale ou comment ça se passe?
Alors, ça a souvent créé, je dirais, des questionnements et j'ai plaisir à y répondre pour clarifier un petit peu cette situation. L'armée ne paye aucun pèlerinage. L'armée française, pèlerinage musulman, je m'entends. Hein.
Ni celui de Lourdes.
Celui de Lourdes, c'est différent.
Très bien.
C'est différent. Hein. On pourra peut-être un jour, et ce sera peut-être un autre format de l'émission, dialoguer avec mes homologues.
Ce sera une bonne idée, avec joie. Voilà.
Concernant le pèlerinage à la Mecque, qui est le pèlerinage, le Hajj, l'armée n'organise pas. La seule disposition qu'elle permet pour le soldat de confession musulmane, c'est que nous autres, aumôniers militaires, nous pouvons accompagner. Nous organisons, c'est-à-dire que nous organisons de manière, je dirais, totalement privée. Les militaires sont en permission, doivent déposer des permissions, ils ne sont pas du tout en mission, ils sont en permission. Les militaires ou leurs familles d'ailleurs, hein, cette possibilité s'offre à la fois aux militaires, à sa famille, aux anciens combattants également, ceux qui ne sont plus sous les drapeaux aujourd'hui, les anciens combattants, et à leurs familles. Et ça leur permet de pouvoir, je dirais, partir avec des aumôniers militaires Et j'ai personnellement en charge l'organisation dans toute sa dimension de réservation des hôtels, des vols, etc. Les assurer qu'ils auront ce qu'ils auront payé. Ça les rassure, d'autant plus que nous ne sommes pas du tout dans une dimension lucrative, que nous sommes vraiment dans un service, on rend service, je dirais, à ceux qui souhaitent partir avec nous. Et nous l'organisons depuis 2008 maintenant, depuis pratiquement une dizaine d'années. Chaque année, des militaires, leurs familles et autres s'inscrivent auprès de nous, et il nous appartient à nous de trouver le meilleur, je dirais, le meilleur forfait qui s'adapte, je dirais, à la fois à leurs besoins, à leur envie, à leurs moyens également, et nous les accompagnons ainsi pour réaliser ce cinquième pilier de la région musulmane.
Abdelkader Harbi, peut-être un dernier point sur ce volet de la pratique cultuelle, et notamment chez ceux qui sont dans une véritable orthopraxie, les militaires musulmans qui seraient dans une stricte observance. Qu'en est-il du jeûne du mois de Ramadan, alors qu'en réalité, il y a des exemptions, des permissions? Rattrape-t-il, jeûne-t-il, ne jeûne-t-il pas? En tout cas, le maître mot, je l'ai compris, c'est la liberté, puis la liberté de conscience. Mais il ne faut pas non plus se mettre en danger.
Non, alors tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ce sont des métiers exceptionnels, ce sont des situations exceptionnelles, notamment lorsque les militaires de confession musulmane se retrouvent sur les théâtres d'opérations extérieures. Où, c'est un euphémisme, cette notion d'opération extérieure. On est en temps de guerre. C'est-à-dire que toute cette vigilance, cette capacité à avoir tous ces moyens, réactivité, etc. Ils sont accompagnés par un aumônier militaire et nous conseillons toujours à nos ouailles de bien vérifier qu'ils sont en capacité d'exercer, gérer leur métier à des moments importants. Et on a, je dirais, des gens qui jeûnent, qui sont capables de jeûner, puis d'assurer pleinement, je dirais, leur métier au quotidien, d'autres qui ne jeûnent pas, rattrapent les jours. J'allais dire que on utilise toute la palette jurisprudentielle qui permet justement pendant ce mois, qui est ce pilier fondamental de la religion musulmane, de jeûner ou ne pas jeûner. Mais néanmoins, comme on dit, nous ne sommes pas directeurs de conscience. Il ne viendrait pas à l'esprit de forcer quelqu'un à jeûner ou de forcer quelqu'un à ne pas jeûner. On laisse libre, on amène toutes les adaptations. Du côté de l'institution, cette dimension est prise en compte. Elle est prise en considération, ce qui fait qu'on peut arriver à avoir, dans certaines unités, je parle bien des unités sur le territoire national, des aménagements, notamment lorsque l'heure de la rupture du jeûne, notamment en été, est très tard, le coucher de soleil jusqu'à 21h, 22h, permettent de prévoir des repas, soit en laissant une partie du mess pour accueillir ces soldats-là, ou le repas du midi est consommé le soir. Voilà, il y a ces arrangements. Et c'est là un des moments, je dirais, où l'aumônier est non pas dans une surcharge de travail, mais a du boulot justement pour pouvoir aider ceux qui veulent jeûner, à les aider, à les accompagner. Il n'y a pas de difficulté, et bien évidemment, on essaye, je dirais, d'exposer toute la palette, justement, qui permette à un jeûneur de rompre le jeûne lorsqu'il se sent pas bien, lorsqu'il a une mission d'importante, ne serait-ce que par exemple, lorsqu'il est chef d'un convoi, qu'il est amené à conduire, on lui préconise de lui dire, écoute, voilà, il n'y a pas de mal à ce que tu puisses rompre ton jeûne aujourd'hui et demain et rattraper ton jeûne. Voilà. On essaie toujours de concilier le métier des armes, qui est un métier spécifique, un métier, je dirais, qui demande concentration, attention, qui demande, je dirais, une vigilance à chaque instant, de les conseiller d'être dans tous leurs moyens. Alors, je ne veux pas non plus dire que jeûner à minuit, je dirais, les moyens humains. Je dirais, l'humain est une machine parfois surprenante.
Oui,
qui nous étonne.
Et même impressionnante. Voilà. C'est la période durant laquelle l'aumônier est sollicité, oui. Et il répond avec sollicitude.
Il y répond très bien. Et voilà, on organise à la fin de ce jeûne du mois de Ramadan également une petite manifestation, conviviale. Et là, on s'adresse plus uniquement qu'aux soldats de confession musulmane, mais à l'ensemble de la troupe. par un thé, une collation, etc., pour fêter ce premier jour de Shawwal, le jour de ce qu'on appelle l'Aïd el-Fitr.
La rupture du jeûne, qui est un moment de joie.
Un moment de joie et de fête. D'ailleurs, c'est là aussi également, et ça dépasse même le cadre, je dirais, de l'institution militaire, puisque dans le cadre de la fonction publique, nous avons une reconnaissance pour chaque culte d'un certain nombre de jours fériés, pendant lesquels les fonctionnaires, les gens de la fonction publique, dans tout son étendue, peuvent bénéficier d'une journée, je dirais, de repos. Alors, c'est pas une journée supplémentaire, ce n'est pas un congé supplémentaire. C'est une possibilité qui leur est accordée. Il y a 3 jours qui sont répertoriés pour le calendrier musulman, la fête de l'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Kébir et le Mauloud el-Nabawi. Ces 3 jours-là sont des jours inscrits dans les textes de la fonction publique, depuis avant même l'existence de l'aumônerie militaire.
Pour nos auditeurs, les francisants, la fête de la rupture du jeûne, la fête du sacrifice et la naissance du prophète.
Et c'est également vrai pour nos confrères et frères protestants, israélites également, qui ont leurs jours de fête, qui sont orthodoxes. Voilà, toutes les, en dehors du calendrier grégorien, mais qui rassemble toutes les fêtes, je dirais, religieuses chrétiennes, le législateur, dans sa sagesse, a quand même pensé, je dirais, à d'autres concitoyens et qui pouvaient avoir d'autres confessions que celles liées au culte chrétien, et a permis, je dirais, à ces chargés de mission, de service public, de pouvoir, je dirais, poser une journée.
Et pour ceux qui sont sur place ou dans les unités, ça donne lieu à une fête plus générale.
Alors, il y a un point que je n'ai pas précisé concernant justement cette notion de mise à disposition du lieu de culte. Alors, ces lieux de culte sont en self-service. Les portes sont accessibles à travers, je dirais, un code, je dirais, sur la porte. C'est-à-dire que chacun va qu'à ses occupations. Il n'y a pas d'appel à la prière. Et je n'organise pas, sur le territoire national, dans ces unités, de prières collectives. Ni de prières du vendredi, ni de prières des fêtes. Néanmoins, en opération extérieure, où le contexte est différent, où on a besoin, non pas de recréer une communauté à part, une communauté religieuse à part, mais elle participe à la cohésion, je dirais, de l'unité, dans ces moments difficiles, dans ces moments gros, où là, nous célébrons, je dirais, au quotidien, avec l'aumônier qui est présent, H24, les 5 prières, sans appel, bien évidemment, mais les gens connaissent, on n'a pas besoin de les appeler, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais également la fête de l'Aïd, qui est célébrée également avec une prière, la fête de tous ces grands moments, je dirais, liés au calendrier musulman, sont célébrés par une prière collective, comme on pourrait le voir, je dirais, dans la vie civile, à travers les mosquées de France et autres. Ce qui fait que c'est un choix, c'est une volonté pour moi de ne pas, sur le territoire national, de ne pas pratiquer ces prières collectives.
Très bien. Et en opération extérieure, c'est un peu aussi comme nous le voyons souvent ou quasi systématiquement à la télévision, à l'occasion de Noël, il y a une sorte d'allégresse collective aussi. Alors, mutatis mutandis, on est dans la même situation pour les jours de fête de l'Aïd, l'Aïd el-Fitr ou l'Aïd, la fête du sacrifice. Abdelkader Harbi, maintenant que nous avons passé en revue un peu la prise en charge sur le plan à la fois spirituel et d'une pratique que j'ose qualifier d'intelligente, avec l'intelligence du cœur et aussi de l'esprit, comment ça se passe cette fois-ci lorsque dans les opérations extérieures, ce doux euphémisme par rapport à des temps de guerre véritables, quand l'ennemi est sur des revendications qui dévoient les valeurs d'amour, de bonté, de miséricorde de la tradition religieuse islamique. Quel est le sentiment du combattant musulman?
Alors, le combattant musulman, j'allais dire, puisqu'il se définit par cet adjectif d'être musulman, est un combattant avant tout. Et s'il a fait le choix de s'engager dans l'armée française...
Donc il a une loyauté à l'institution.
Tout à fait, une loyauté, une fidélité qu'il ne faut surtout pas commencer à remettre en cause ou à questionner. Il est engagé, selon ses principes d'attachement, je dirais, à la notion de justice et de valeur que la France prône, et que la France, je dirais, a l'honneur, je dirais, de diffuser à travers, je dirais, ses engagements. Et on ne peut pas être musulman à géométrie variable. On ne peut pas avoir des états d'âme lorsque le conflit se porterait sur des territoires où les populations seraient de confession musulmane, et même ceux qui se revendiquent comme tels, et qu'on aurait une attitude un peu réservée, et que lorsque le conflit se situerait dans d'autres contrées où la région n'est pas, on se comporterait différemment, ce n'est pas acceptable. Et nos soldats de confession musulmane sont soldats et sont militaires français avant tout. Cette particularité n'est qu'un, j'allais dire, un pouillem de leur engagement. Et ils se comportent, je dirais, comme leurs frères d'armes, avec ou sans confession, avec fidélité et loyauté et un engagement viril et à saluer, je dirais, de tout temps.
Bien. C'est dit, il n'y a pas lieu de s'y appesantir parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. Maintenant, abordons la question, si vous voulez bien, Abdelkader Harbi, à propos de un peu du calendrier. Nous sommes en 2018, c'est l'année du centenaire de l'armistice, de la Grande Guerre. À ce moment-là, on pensait qu'il n'y en avait qu'une seule et qui était grande. Quelles ont été un peu la particularité de cette commémoration?
Alors, nous avons participé à un certain nombre d'activités, soit en collaboration avec nos homologues des autres religions, ou parfois même force de proposition. Hein. Nous avons, nous, au sein de l'institution, au sein de l'aumônerie militaire du culte musulman, deux événements, au-delà, je dirais, de ce centenaire, de cette particularité, de cette célébration du centenaire. Nous avons institué également deux dates. La première, c'est celle du 16 octobre. Alors c'est un hasard du calendrier, hein. Il n'y a aucun événement historique, où nous célébrons chaque année au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. C'est depuis maintenant 4 ans, nous organisons à chaque fois, nous y invitons des élèves, des écoles, je dirais, de la banlieue parisienne, à participer avec nous à ce ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Et nous avons également le 25 juin, alors là, cette date-là, elle a un sens pour moi, puisque le 25 juin 2006, je venais de prendre mes fonctions, depuis à peine 2 mois, et j'étais convié par le président de la République, Jacques Chirac, à aller inaugurer avec lui un monument dédié aux musulmans morts pour la France, à Fleury-devant-Douaumont, dans les champs de bataille de ce qu'on appelle le Verdun.
Le mémorial.
Le mémorial. Et nous organisons, nous sommes réappropriés, je dirais, puisque l'appropriation de ce lieu est restée vacante, malheureusement. Et je me suis dit, il était impensable de laisser, je dirais, ce monument qui a été érigé, ô combien, je dirais, souhaité, désiré par la communauté musulmane engagée dans ces questions, de le laisser comme cela. Et nous célébrons, nous, également chaque année, le 25 juin, à date précise, ces événements. Au-delà de ces éléments ponctuels, nous organisons cette année, dans le cadre du centenaire également, une exposition itinérante. Et on aura le plaisir de l'inaugurer à la fin de l'année, à la Grande Mosquée de Paris. Puisque la Grande Mosquée de Paris, il convient quand même, je dirais, de la citer aujourd'hui, puisqu'elle est, sa présence, son existence est quand même l'hommage rendu par la République, et je dis bien la République, aux soldats de confession musulmane morts pour la France, pendant notamment cette Première Guerre mondiale et autres. Et nous allons célébrer à cette mosquée de Paris qui a été érigée en l'honneur de ces soldats musulmans morts pour la France, inaugurer cette exposition itinérante qui va retracer l'engagement, non pas des musulmans, mais l'engagement à travers les différentes armées, l'armée coloniale, l'armée d'Afrique. On a pris, alors, il fallait bien s'arrêter à un moment donné, on a cadré cela entre 1870 et 1962, qui est la fin du conflit algérien. Et on va retracer à travers, je dirais, différents portraits, différentes photos que l'on a pu récupérer auprès du service historique des armées, de l'ECPAD,
CPAD, c'est le service...
Le service de la production...
Il y a des archives dedans.
Il y a quelques archives dedans, des perles, vraiment des trésors. Hein, quand on prend le temps de s'y atteler, on présentera cette exposition itinérante avec une inauguration à la Grande Mosquée de Paris. Et ensuite, nous irons comme cela, dans un premier temps, les lycées et écoles militaires. pour rappeler un petit peu cet événement-là. On marquera comme cela le centenaire à travers l'engagement de ces soldats, à travers ces grands événements. Et pour finir sur ce volet du centenaire, on a mis l'accent sur également la transmission aux enfants. C'est pour nous, je dirais, un investissement, je dirais, considérable et qui est à la mesure des attentes aujourd'hui dans notre société. On se doit d'être des passerelles, des gens qui puissions, je dirais, transmettre, je dirais, à ces jeunes générations dans des territoires aujourd'hui qui sont bien souvent mis en avant lors d'événements tragiques ou dramatiques. Et ces populations-là ont besoin qu'on puisse leur expliquer, leur montrer.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui d'aumônerie militaire, du culte musulman, aumônerie aux armées, avec Abdelkader Harbi, l'aumônier militaire en chef du culte musulman, aumônier général pour parler simplement. Pour cette dernière partie, si vous voulez bien, Abdelkader Harbi, j'aimerais bien entendre un peu vos souhaits, vos désirs, des doléances, si vous en avez. Comment imaginez-vous encore l'avenir de cette aumônerie? Comment les choses se passent-elles? Qu'est-ce qui manque? Toute œuvre humaine est perfectible. Comment voyez-vous, en tout cas, dans les années à venir, l'organisation de l'aumônerie militaire du culte musulman?
Alors, l'événement majeur de cette fin d'année 2018, et la mise en place, je l'espère pour la rentrée universitaire prochaine, en 2019, octobre 2019, d'un séminaire de formation des aumôniers militaires.
Bien.
C'est là un besoin. Nous avons aujourd'hui, avec l'expérience qui est la nôtre, assez de recul pour pouvoir proposer un format qui sied à l'institution militaire. C'est un séminaire de formation où les séminaristes auront une formation en continu, sur 3 années, avec des prérequis bien évidemment, et qui concernent l'engagement futur au sein de l'aumônerie militaire, le truc classique, avoir plus de 18 ans, etc., et toutes les conditions prérequises, mais également sur un point de vue purement de connaissances, de jeunes, avec un minimum d'un bagage d'une licence, un bac plus 3.
Et en sciences humaines ou dans
en sciences humaines de préférence en sciences humaines. Et intégrerait ainsi ce séminaire en qualité d'étudiant, mais également de réserviste, ce qui permettrait d'avoir ces deux volets, à la fois académiques. Et nous proposerions une formation, environ 25 heures par semaine, sur des disciplines qui leur permettraient d'exercer pleinement leur métier, où on a pu, aujourd'hui avec l'expérience qu'il y a nôtre, pouvoir définir un programme, un contenu. Il est évident que la fonction d'aumônier militaire, même si parfois on nous appelle l'imam, l'imam aux armées, ça arrive aussi, c'est une des appellations.
Comme on parle de l'évêque aux armées.
L'évêque aux armées, le rabbin aux armées, l'imam aux armées, bien qu'il exerce cette fonction d'imam à des temps ponctuels, mais il n'est pas tout le temps imam, vous le savez comme moi, cher Caleb, que cette fonction d'imam est ponctuelle et à un temps précis, à un moment donné précis. Et chaque individu est imam chez lui et lorsqu'il dirige la prière. Au-delà, cette formation sur 3 années permettrait d'aboutir à un recrutement. Puisque par définition, il serait vain de former quelqu'un si au final, vous ne lui proposez pas un emploi. Et c'est un peu ce qui fait défaut aujourd'hui, lorsque l'on parle, mais de manière plus large, sur l'organisation du culte musulman en France, où on fait le constat qu'on manque d'imams formés, je dirais, etc. Le problème majeur, c'est que je connais beaucoup de gens qui voudraient s'engager sur cette voie de l'imamat. Mais malheureusement, au final, on les emploierait où? Qui serait chargé de les rémunérer? Qui serait en mesure de les employer, etc. Ce qui fait que, en proposant aujourd'hui un séminaire de formation, je réfléchis également à leur employabilité à terme. Et c'est pour cela qu'on a d'un commun accord avec l'institution militaire, gelé les recrutements. Nous allons avoir une déflation, je dirais, des effectifs aujourd'hui sur les prochaines années, de manière à permettre à chaque promotion, à l'issue de ces 3 premières années, une promotion à chaque année, où on aurait 4 à 5 aumôniers qui seraient recrutés avec l'assurance d'avoir un emploi et d'avoir été formés pour cet emploi-là et avancer. On serait sur un renouvellement, je dirais, total des effectifs de l'aumônerie militaire de culte du jugement, d'aumôniers formés sur 10 années environ. Voilà, c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme. Et au moins, il y a une phrase qui me fait toujours mal, et qui m'a peut-être été également un moteur, j'irais, dans ma décision de mettre en place ce séminaire, c'est « n'importe qui peut être aumônier militaire ». Et ce oui. N'importe qui, parfois, me blesse.
Je comprends, et donc le n'importe qui va être plutôt affiné, poli, voilà, poli au voilà. Sens du polissage, en tout cas formé, et on aura un aumônier pleinement au fait de son champ de compétences.
Tout à fait, tout à fait. C'est une nécessité aujourd'hui. On est obligé de passer par là. Et peut-être servirons-nous de laboratoire, d'expérience pour d'autres, je dirais, dans d'autres institutions. Peut-être serait-il bien inspiré. Et peut-être même pourrions-nous mettre en commun nos forces pour pouvoir aboutir à un séminaire de formation de l'ensemble des aumôniers musulmans, qu'ils soient des aumôniers pénitentiaires, de la santé ou à créer celle de l'éducation nationale et militaire, et pourquoi pas les imams de France.
Oui.
Leur permettre, j'allais dire, à travers, j'irais, cette formation, qui serait bien évidemment non plus de 3 ans, mais y rajouter 2 à 3 années supplémentaires, puisque le métier, je dis bien métier, le métier d'imam, et le métier...
Ou la profession, la vocation.
La vocation d'imam ou d'aumônier, certes, on s'y retrouve sur certains points, mais il y a des particularités qu'on retrouve chez l'imam, qu'on ne retrouve pas chez l'aumônier, et d'autres chez l'aumônier, pas chez l'imam. Ce qui fait que je pense que si ceux qui sont en charge aujourd'hui d'organiser, de reprendre l'islam, sont en devoir de réfléchir à cette dimension, à cette mise en place de ce séminaire, avec la possibilité d'avoir un emploi ou de manière à susciter des vocations.
Et les aumôniers féminins sont-elles aussi au contact de leurs frères d'armes, finalement, hommes et femmes, ou c'est-à-dire c'est asexué en réalité?
Elles font le même travail, j'allais dire, que leur homologue masculin pour le culte musulman. À la seule différence, c'est qu'elles ne célèbrent pas les prières, elles ne conduisent pas les prières, mais néanmoins, comme nous ne célébrons pas les prières collectives, j'allais dire qu'elles n'est en diminuant en rien et qu'elles exercent sa mission totalement. Et elles organisent, je veux dire, lorsque le besoin s'en fait sentir, des cercles de discussion, des questionnements, des réponses, etc. Elles sont, j'allais dire, efficaces et remplissent pleinement leur rôle, je dirais, d'aumônier militaire, entre parenthèses, féminin, du culte musulman. Et elles reçoivent un accueil très, très, très positif, tant de la part des personnels militaires féminins que masculins.
Oui. J'ai cru comprendre qu'elles étaient très bien formées, Il y a eu des docteurs en sociologie, dans d'autres domaines, et auxquels elle a fallu adjoindre peut-être la formation proprement militaire.
Alors, tous les aumôniers, hein, c'est pas spécifique au culte musulman, mais tous les aumôniers bénéficient à leur embauche, lors de leur premier contrat, je dirais, de 3 ans, une formation, ce qu'on appelle la FMI, la formation militaire initiale, qui leur permet de prendre les rudiments du milieu dans lequel elles vont évoluer. Et elles ont l'occasion également de participer à travers les unités qu'elles desservent à des manœuvres, à des compléments de leur formation, etc. Je dis que les aumôniers féminins, aujourd'hui, pour moi, c'est une grande fierté.
Et pour revenir à ce séminaire qui sera mis en place et dont vous espérez l'ouverture à la prochaine entrée universitaire, les choses vont bon train, c'est une émanation du ministère des Armées, on dit maintenant, de la Défense, où il y a aussi une volonté d'implication du Premier ministère, de la chefferie du gouvernement, où on est tant dans le projet.
Alors le projet aujourd'hui, aux bornes de l'institution militaire, le projet a été accueilli très favorablement. J'ai le soutien plein et entier aujourd'hui de la ministre des Armées et du chef d'état-major des Armées. Je veux dire, quelque part, je suis peut-être un peu victime de ce succès. Puisque aujourd'hui, on donne l'impression un petit peu de stagner, de patiner un petit peu. Mais j'ai bon espoir qu'on va rapidement enclencher la démarche de manière plus technique, lancer les recrutements, etc. Puisque ce projet, Matignon s'en est saisi quelque part un petit peu et réfléchit aujourd'hui avec les instances représentatives du culte musulman à la mise en place de ce séminaire de formation des aumôneries du culte musulman. Et je suis tout à fait volontaire et disponible pour pouvoir aller à la rencontre de mes homologues, des aumôniers pénitentiaires ou hospitalières, pour leur proposer d'unir nos forces, d'unir notre vision des choses, pour pouvoir avancer vers cette voie.
Et de mettre en commun aussi le retour d'expérience, comme on dit maintenant. Avez-vous quelque chose à ajouter, Abdelkader Harbi ?
Alors, je vais sans revenir à l'introduction de notre rencontre, de notre propos, citer un général ministre de la guerre, le général Dubarry. Et c'est là cette phrase c'est de ne pas l'écorcher, qui s'exprimait en 1872. Le général Dubarry avait fait une longue carrière militaire et il disait, entre guillemets, si vous ôtez aux troupes et aux hommes de guerre le droit de croire dans une vie dans l'au-delà, vous n'avez pas le droit de leur demander de sacrifier leur vie ici-bas.
Bien. Et surtout lorsqu'on leur apaise à la fois l'esprit et le cœur, que cet au-delà pourra être pour eux en tout cas annoncé comme meilleur et durable.
Tout à fait.
Merci infiniment, merci beaucoup Abdelkader Harbi. C'était vraiment un grand plaisir de vous accueillir à l'émission Questions d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des musiques, des livres aussi, des articles sur ce sujet et sur d'autres sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son est assurée par Marie Lepeintre. La réalisation est assurée par Franck Lilin.